look his eye, legs weird tonight, warmth is laced with rain. The angle on the faces tell me it's not playing straight. The look is not so far, I knew it was gonna be a plunging death of everything, the death of harmonies.
Radio G 101.5 FM. Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes Angevin d'Amnesty International sur Radio G 101.5, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, Sophie, Philippe et Cécile, bonsoir à vous trois.
Ravi de vous retrouver.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous recevons Bernard qui nous parlera de l'association Action contre la faim. Nous passerons ensuite en revue l'actualité et nous écouterons la biographie d'une grande figure des droits humains. Mais tout d'abord, Philippe, ton éditorial est consacré au triste anniversaire du Rana Plaza.
Oui Valérie, le 24 avril 2013 s'effondrait dans la banlieue de Dhaka au Bangladesh le Rana Plaza, un immeuble de 8 étages abritant 6 usines textiles, provoquant la mort de 1138 ouvriers et blessant plus de 2000 parmi les quelques 5000 qui étaient employés. C'est l'un des plus grands désastres industriels de l'histoire moderne. Gap, Benetton, Mango, C&A et autres distributeurs occidentaux qui faisaient fabriquer leurs produits à moindre coût par une main-d'œuvre sous-payée furent alors pointés du doigt car ils prétendaient ne rien savoir ce qui se passait au bout de la chaîne.
Mais cette catastrophe a au moins alerté les responsables.
En effet, un fonds d'indemnisation des victimes a été mis en place. Deuxième pays exportateur de vêtements de prêt-à-porter après la Chine, le Bangladesh a bénéficié de cette mobilisation qui a abouti notamment à la signature d'un accord sur la sécurité des ateliers sous le contrôle de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. À ce jour, 222 grandes entreprises du marché international ont souscrit à l'accord, parmi lesquelles Adidas, H&M, Uniqlo. Il concerne 1600 usines au Bangladesh, dont 767 ont achevé leur mise en conformité, et 2 millions de travailleurs, dont 70% de femmes.
Et des syndicats ont enfin pu voir le jour.
C'est vrai. Et l'accord a permis à ces syndicats de travailleurs textiles d'attaquer en justice des employeurs qui refusaient ou tardaient à prendre des mesures de sécurité. Une grande entreprise internationale, par exemple, qui a obtenu que son nom soit gardé secret, a ainsi été condamnée en janvier par un tribunal d'arbitrage à La Haye à verser 2,3 millions de dollars de dommages et intérêts aux syndicats. On a observé également des avancées dans notre pays. Une loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre est entrée en vigueur en 2017, après un long parcours législatif. Elle impose aux entreprises employant au moins 5000 salariés en France et 10 000 dans le monde de veiller à la sécurité et au respect des droits humains des travailleurs contribuant à leur activité, y compris sous-traitants et fournisseurs. Un juge français pourra être saisi en cas de non-respect de cette loi et astreindre l'entreprise à s'y soumettre. Cette loi constitue effectivement une première au niveau mondial.
Mais il reste beaucoup à faire.
Hélas oui, des milliers d'ateliers au Bangladesh ne sont toujours pas couverts par l'accord. Le travail des enfants reste un énorme problème, de même que les conditions salariales. Des grèves lancées au Bangladesh pour appuyer ces revendications ont été durement réprimées et en mesure de rétorsion, 59 usines ont été fermées, conduisant au licenciement de 1600 ouvriers. Des plaintes non fondées ont été déposées par les autorités contre plusieurs centaines d'ouvriers et au moins 34 travailleurs ou leaders syndicaux ont été arrêtés et détenus pendant plusieurs semaines sans motif légal. Signalons que malgré une récente augmentation à 60 euros mensuels, ce sont encore les travailleurs les moins bien payés du monde.
Ouais, enfin, il faudrait aussi que les géants du prêt-à-porter réfléchissent sur le coût humain du modèle économique qu'ils soutiennent.
Bien évidemment, cette obsession de vendre toujours moins cher pour vendre plus avec des délais de livraison très serrés repose sur une logique du prêt-à-exploiter. Mais force est de constater qu'aucune marque n'a vraiment fait évoluer son modèle économique. Un rapport récent indique que la pression sur les coûts et les délais de production n'a fait qu'empirer. Ainsi, les prix imposés aux fournisseurs sont encore plus bas que ceux pratiqués à l'époque du Rana Plaza. La fast fashion, c'est-à-dire la mode jetable à bas prix, est responsable en grande partie de cette détérioration. Les engagements prétendument éthiques des marques demeurent souvent une opération de communication destinée à rassurer les consommateurs, tandis que leurs mauvaises pratiques perdurent. Je vous conseille de consulter le site du collectif Éthique sur l'étiquette qui vient de publier sur ce sujet un dossier très complet reprenant les avancées et les désillusions 5 ans après la catastrophe.
Merci beaucoup Philippe. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et passons maintenant à l'interview du mois. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Bernard qui est venu nous présenter l'association Action contre la faim.
Bonsoir Bernard, est-ce que vous pourriez nous présenter d'abord les objectifs de votre association ?
Bonsoir à tous. Donc Action contre la faim est une organisation non gouvernementale internationale qui lutte depuis près de 40 ans, en 2019, elle aura 40 ans, puisqu'elle a été créée en 79 par François Giraud, Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy. Donc c'est structuré en réseau international, il y a plusieurs sièges de par le monde. À Paris, il y a donc le siège, et qui est en liaison avec un réseau de 32 délégations dans toute la France. La délégation d'Angers en fait partie. Mmh. Donc, nous sommes le relais de l'association en province, des événements, des informations que nous communique l'association. Mmh. La faim dans le monde, aujourd'hui, c'est 1 personne sur 9 qui est concernée. Nous sommes 7,5 milliards. Il y a 815 millions de personnes qui souffrent de la faim, qui souffrent de la maladie qu'on appelle la sous-nutrition. Mmh. Donc la faim elle a plusieurs formes, hein. Il y a vraiment les gens qui n'ont pas à manger et puis il y a des gens qui ont à manger mais qui mangent toujours la même chose. Donc soit c'est aigu, soit c'est chronique. Donc Action contre la faim agit sur le terrain pour éradiquer tous les problèmes. Donc elle a différents domaines d'expertise, l'alimentation forcément. La santé, l'eau, donc elle aide en cas de conflit, elle apporte une aide psychologique aux personnes vulnérables qui sont surtout les enfants. Un enfant meurt toutes les 5 secondes dans le monde pour la cause de malnutrition.
Et Bernard, quelles sont les zones géographiques qui sont les plus touchées actuellement par la famine ?
Alors donc là aujourd'hui, je vous ai dit, il y a 1 personne sur 9 en gros dans le monde qui souffre de la faim. Il y a 1 personne sur 9, vu la taille du continent asiatique, c'est surtout en Asie que ça se passe. Mmh. Il y a à peu près 500 millions de personnes qui souffrent de la faim. Mais le plus gros problème, c'est en Afrique, où là, il y a 1 personne sur 5, même 1 personne sur 4 qui souffre de la faim, liée aux conditions climatiques, mais liée aussi à tous les conflits, qui existent, hein, que ce soit surtout le Yémen, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup du Yémen, le Soudan, le Nigeria. Donc tout ça, ce sont des pays qui souffrent vraiment de la faim. Entre cette année, en 2018 et 2017, par exemple, la faim a progressé d'une trentaine de millions de personnes, liées justement à ces problèmes de faim dans ces pays donc, que je viens de vous citer. Hein, la Somalie, j'ai oublié, où il y a des conflits armés.
D'accord. Voilà. Très bien. Et au niveau local, est-ce que vous avez des types d'actions et est-ce que vous auriez des exemples et certaines actions qui fonctionneraient, auraient plus d'impact que d'autres ?
Voilà, donc aujourd'hui, nous, au niveau local, alors déjà, je vous parle un petit peu de la délégation d'Angers, hein, nous sommes une délégation qui est relativement jeune. Les personnes, nous sommes à peu près une quinzaine de bénévoles. Hein. Ce sont pratiquement que des personnes qui sont soit à l'université, soit à Belbeil, soit à la Cato. Donc notre travail, nous, au niveau de bénévoles, c'est qu'on relaie en grande partie des journées. Par exemple, au mois de mars, il y avait la journée de l'eau. Donc c'est relayé, c'est organisé par Action contre la faim à Paris, le siège. Et nous, nous le mettons en forme sur chacun dans nos départements, dans nos départements. Par exemple, nous étions Place Lorraine au mois de mars. Nous avions un petit stand. Nous avions développé un grand jeu de loi. Donc, nous sensibilisions les personnes à jouer au jeu de loi et à travers des questions sur l'eau, sur la problématique de l'eau, parce que la problématique de l'eau, c'est aussi une raison de la cause du problème de la faim dans le monde. Donc, les gens jouaient. C'était très ludique. Nous avons eu des gens vraiment tout un panel de personnes. Nous avons couvert toutes les générations. Et c'était vraiment une expérience. Nous, en tant que jeune délégation, tous nos bénévoles étaient super ravis de cette journée. Nous avons eu des contacts exceptionnels avec la population.
Et comment fonctionnez-vous ? Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations ? Et comment vous recrutez aussi les bénévoles ?
Donc là, comme je vous ai dit, nous avons débuté vraiment l'association. Enfin, moi, j'ai pris la délégation, si vous voulez, il y a à peu près un an, au mois de février. Bon, pendant toute la première période, j'ai essayé de contacter des gens, et c'est vraiment difficile de susciter des bénévoles qui s'investissent dans une cause. Donc au mois de mon équipe s'est vraiment étoffée, c'est lors d'un forum des associations à l'université Saint-Cherge, où là j'ai pu toucher un certain nombre d'étudiants qui venaient soit de la Cato, soit de Belbeil. À cela s'est greffé quelques jeunes aussi qui étaient des amis de ces étudiants-là, mais la délégation est vraiment des gens très jeunes.
D'accord.
Je crois que vous travaillez aussi avec des écoles ou des collèges.
Voilà. Donc Action contre la faim France. Donc nous créons tous les ans. Nous avons la journée de l'eau, la journée de l'alimentation. Je vous ai parlé. Et nous avons aussi ce qu'on appelle la course contre la faim, le dessin contre la faim. Où là, nous intervenons au niveau des écoles. La course contre la faim, ça va être demain. Ça sera le 18 mai, en gros, dans les écoles. Donc, le concept de cette course, c'est que l'équipe pédagogique des écoles décide en début d'année de participer à ce concept. Et donc, ils mobilisent les élèves à participer. Donc, les élèves, c'est un petit peu des ambassadeurs de la faim dans le monde. Il se trouve des petits sponsors dans leur entourage proche, les parents, les amis, et ils trouvent des parrains, et si vous voulez, ils courent pendant une heure, ils font X tours, et les sponsors, pour chaque tour effectué, ils ont une certaine somme d'argent. Voilà. Alors pour information, par exemple en 2017, il y avait 25 écoles sur le département qui ont participé. Ça faisait 6 000 élèves, et on a récolté quand même 65 000 euros. C'est ce qui n'est quand même pas mal.
Et si on souhaite rejoindre votre équipe ou tout simplement vous contacter, vous avez une adresse?
Alors, nous avons donc déjà, il n'y a pas de bureau, nous sommes tous des bénévoles. Les points là, c'est une adresse mail, c'est ang@actioncontrelafaim.org, ou nous avons une page Facebook, Action contre la faim Maine-et-Loire, où vous pouvez nous contacter. Et il y a un numéro de téléphone, forcément aussi, le 06 20 53 88 84, où vous pouvez rentrer en liaison. Et là, on se donne rendez-vous, on partage et on voit comment on peut travailler ensemble et sensibiliser tous les enjeux vins aux problèmes de la faim dans le monde.
Merci beaucoup, Bernard.
Merci, Bernard.
On se retrouve après une pause musicale.
Il a travailler l'amour. Il parle de la mort. Il parle de l'amour. Aïe, l'amour. Aïe, l'amour. Aïe, l'amour. Que d'autres chante celui qui le mieux te convient. Certains refrains sont plus joyeux que d'autres. Chante celui qui le mieux te convient. Je le croyais. Tout s'arrange à la fin à peu près. Tout s'arrange pas comme je l'espérais.
De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5, vous venez d'écouter Sage comme des sauvages, un jeune groupe français avec la chanson Laïla Como. Et nous commençons sans tarder notre rubrique actualité par l'Espagne, Sophie, où un jugement scandaleux a donné lieu à une mobilisation importante.
5 hommes âgés de 24 à 27 ans ont été condamnés à 9 ans de prison pour abus sexuels et abus de faiblesse suite à des relations sexuelles imposées en groupe à une jeune femme de 18 ans, en marge des fêtes de Pamplune de 2016. Les trois juges chargés de l'affaire ont rejeté le délit d'agression, provoquant la colère de milliers de personnes qui sont sorties jeudi soir dans les rues des principales villes espagnoles sous les slogans « Ce n'est pas un abus, c'est un viol » et « Moi, je te crois ». Face à l'ampleur de la polémique, le gouvernement espagnol s'est dit prêt à réviser le code pénal. Le parquet, qui avait demandé 22 ans de prison, entend faire appel au jugement.
À Malte, Philippe, l'exécution d'une journaliste courageuse continue de susciter l'indignation.
Et oui, des milliers de personnes ont manifesté dimanche 29 avril dans les rues de La Valette, la capitale maltaise, pour réclamer vérité et justice. Plus de 6 mois après l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, victime d'un attentat à la voiture piégée. Souvent qualifiée de Wikileaks à elle toute seule, Daphne avait révélé certains des pans les plus sombres de la politique maltaise, s'en prenant avec virulence au Premier ministre, mais aussi au chef de l'opposition. La manifestation a été organisée par un collectif militant dirigé par des femmes, dans la foulée des révélations du projet Daphné, dont Le Monde est partenaire. Dans le cadre de ce projet, en effet, 45 journalistes provenant de 18 médias du monde entier ont travaillé ensemble en reprenant l'énorme masse de documents laissés par la blogueuse. L'instruction concernant la mort de la journaliste est toujours en cours.
Cécile, revenons sur ce qui s'est passé dans les Alpes au col de l'Échelle.
Dans le cadre d'une mise en scène médiatique au col de l'Échelle à la frontière franco-italienne, le groupe d'extrême droite Génération Identitaire a bloqué la frontière entre le 21 et 22 avril, étalant des messages haineux en pleine montagne et barrant la route à des migrants épuisés. Ainsi, à l'instar de ce qui s'est passé lors de l'action organisée en Méditerranée à l'été 2017 pour saborder les sauvetages de personnes migrantes, des militants d'extrême droite de plusieurs pays européens sont venus bloquer symboliquement la frontière sans que les forces de l'ordre interviennent ou que les autorités condamnent clairement cette action, se bornant à évoquer des gesticulations.
Oui, mais une belle réaction citoyenne et solidaire s'est rapidement mise en place.
En effet, dès le dimanche 22 avril, une manifestation pacifique composée de plus de 150 personnes exilées et de leurs soutiens est partie de Clavière en Italie pour rejoindre Briançon à pied et ainsi protester contre la militarisation de la frontière et la non-prise en charge des personnes mineures ou en demande d'asile par les autorités françaises. À l'issue de cette manifestation spontanée, 6 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. 3 ont finalement été relâchées, mais 3 autres sont toujours en détention provisoire.
Hélas, Sophie, tu voulais nous parler de la situation en Syrie.
En effet, le régime de Bachar el-Assad a déjà pris des dispositions dans le cadre de la future reconstruction du pays. Il a promulgué une loi qui vise à fermer la porte au retour des exilés tout en récompensant les fidèles du régime. Ce texte pourrait aboutir à priver des centaines de milliers de réfugiés de toute perspective de retour